Salut, c'est Charlène et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hiring Stories Podcast. Bonjour à tous. Bonjour Patrick.
Bonjour Charlène.
Ça fait bizarre de t'appeler Patrick, mais bon, on va rester un peu plus formel. Bonjour Patrick Dubois. Bonjour Nicolas.
Bonjour Charlène.
C'est sûr que ça fait des années que Patrick et moi, on travaille ensemble. Puis toi, Nico, ça fait aussi quelques temps qu'on travaille ensemble. Mais j'aimerais ça, si Pat, tu pouvais commencer par expliquer à ceux qui nous écoutent un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie professionnelle, s'il te plaît.
OK. C'est important de préciser. Patrick Dubois, fondateur et CEO de Humanify. Je pense que les gens connaissent bien Humanify. Visionnaire, toujours plein d'idées, mais j'ai réussi à m'entourer d'une équipe qui allait les porter et les réaliser. Donc, c'est mon petit côté professionnel, voici qui je suis.
Parfait. Et toi, Nico?
Depuis peu avec Humanify, même si on collaborait depuis longtemps ensemble. Donc, moi, je suis quelqu'un qui voulait, comme Pat et toi, changer le monde du recrutement au travers d'un ancien vaisseau, vaisseau que j'ai changé pour celui du Humanify parce que je le trouvais justement peut-être plus à même de nous amener plus loin. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on collabore tous ensemble.
Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, c'était le propriétaire de la firme Ecosystem. Ça peut parler à certaines personnes qui nous écoutent. Et si je ne me trompe pas, Pat, d'ailleurs, aujourd'hui, là, on voulait parler un peu des similarités ou en tout cas de la ressemblance du recrutement puis du monde des ventes, qui, je pense, est assez évidente. On voulait aller creuser ça un peu ensemble. Puis Pat, d'ailleurs, c'est clairement quelque chose qui définit un peu ton parcours aussi, dans le sens où le recrutement, c'est un peu tombé auprès de toi comme une facilité ou quelque chose que tu te disais, me semble que je suis bon avec les gens, peut-être que je devrais me lancer en recrutement, right?
Exactement. J'ai étudié en informatique, donc on est complètement à l'opposé. Par contre, à l'université, ce que j'aimais beaucoup, c'est être président de la promotion, m'occuper des événements, rassembler les gens. Donc, j'étais toujours impliqué dans les items où on pouvait rencontrer et discuter avec des gens. À mon premier emploi en informatique, j'aurais fait, je pense, un excellent business analyst ou un bon chargé de projet, mais on m'a mis comme codeur. Donc, toutes les raisons étaient bonnes pour toujours me lever de mon bureau pour aller parler à différentes personnes, différents utilisateurs. Et c'est ce qui m'a amené au monde du recrutement. J'arrêtais pas de me faire solliciter par des chasseurs de tête, des gens en recrutement. Et je me suis dit, il me semble que j'ai les skills pour m'en aller dans cette direction-là. Donc, j'ai fait le switch et je me suis dirigé vers le recrutement. Mais toutes mes skills, on va dire, sociales et tout ça, m'ont permis là, de grandir très rapidement dans ce domaine-là.
Presque un requis, en fait. Donc, c'est ça un peu, c'est de se dire les soft skills dont tu parles, en recrutement, c'est un accélérateur de succès, genre?
Ben, si tu te souviens, quand tu as commencé chez nous, Charlène, un des premiers, astuces que je t'ai mentionné, l'importance du réseau.
Oui, c'est vrai.
Tu t'es vraiment focussé sur ça, à développer et entretenir surtout ton réseau. Et tout ça doit se faire également tu dois avoir un intérêt pour les gens, tu dois avoir un intérêt pour la discussion, en connaître sur les autres, pas le faire uniquement dans un point de vue business, mais de le faire vraiment parce que tu t'intéresses aux gens, aux personnes.
Nico, ça fait-tu du sens par rapport à ce que tu en ressens, toi?
Ben, moi, je vais faire du pouce sur ce que tu disais, Patrick, parce que un peu comme toi, moi, je viens d'un background qui était par contre plutôt vente à la base. Je suis tombé dans le recrutement par la suite et je fais du pouce en disant que en fait, finalement, c'est vraiment un prérequis encore plus aujourd'hui parce que le monde du recrutement a changé à l'époque. Il y a peut-être 10, 15 ans en arrière, le recrutement, c'était principalement une approche passive. On mettait des CV, des gens impliqués et là, il fallait trier. Donc, il y avait plein de techniques RH qui étaient à mettre en place pour identifier les bonnes personnes. Alors qu'aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre sur le marché fait que, en fait, c'est une vraie approche de business developer qu'on a quand on va aller chercher justement des candidats sur le marché parce qu'il faut être capable de les convaincre, de se démarquer. Donc, en fait, c'est une vraie approche marketing-vente qu'il faut avoir et l'allier ensuite avec justement toutes les techniques de recrutement pour l'aspect psychologique de la personne, être certain qu'il y a un fit. Donc, pour moi, c'est même plus un avantage concurrentiel. C'est une nécessité d'avoir un côté vente, je trouve, dans le recrutement de nos jours.
Un côté vente. Est-ce que ça, c'est une réflexion intéressante parce que, tu sais, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a toutes les compétences de vente, demain matin, est capable de faire du recrutement? Tu sais, mettons, je recrute du monde pour chez nous, puis j'ai pas accès à un bassin de talents ultra qualifié techniquement en recrutement. Est-ce que ça veut dire que demain matin, j'engage un vendeur, je vais mettre des gros guillemets autour? Est-ce que ça fait du sens? Y a-tu des choses... on a compris que c'était complémentaire puis que ça se ressemblait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est un ramp-up?
Ben, moi, je le mettrais dans deux catégories importantes. Premièrement, j'avais déjà fait une conférence dans le passé qui était sur comment recruter autrement et bon, toute nouvelle technique. Et un des conseils que je mentionnais aux entreprises, c'était effectivement s'il n'y avait pas de recruteurs à l'interne, d'une façon temporaire, de peut-être pouvoir utiliser les gens de leur force de vente pour faire les premières approches, les premiers contacts au niveau des candidats. Toutefois, je ne veux pas dire qu'un recruteur est un vendeur. Je pense que les skills d'un vendeur, c'est-à-dire de ne pas avoir peur du téléphone, de ne pas avoir peur d'avoir une discussion, d'être en mesure de cibler ses clients, cibler son auditoire, ses candidats, de développer des techniques d'approche, des techniques aussi pour des reminders, donc rappeler les candidats à certains moments, rappeler les entreprises à certains moments. Donc, c'est les skills du vendeur qui peuvent se porter au recruteur. Je ne sais pas si tu veux compléter sur ça, Nicolas. Je te vois constamment faire oui. Donc, oui. J'aimerais que tu m'approuves pour une fois.
Non, mais en fait, je suis tellement d'accord parce que je le dis souvent parce que je pense même que finalement, de tout temps, quelqu'un qui était bon en recrutement avait finalement ses skills de vendeur. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont encore plus nécessaires pour les raisons que je disais avant. Mais surtout, il y a un autre aspect que je voudrais ajouter, c'est que la vente, ben, comme le recrutement, même sur le marché actuel, c'est quelque chose qui souffre d'une image négative, tu sais, dans le grand public. Un vendeur, ouais. On pense tous le vendeur de chars d'occasion qui essaie de me vendre, de me pousser quelque chose. Alors que, en fait, quand on est un bon vendeur, l'idée, c'est justement, le bon vendeur, c'est celui qui va être capable de comprendre le besoin de l'autre et surtout de ne pas pousser quelque chose qui ne va pas lui convenir. Et je pense que ça, c'est un élément assez, assez important à mettre de l'avant. C'est que quand je dis vente, c'est pas dans l'image ou l'archétype même du vendeur que tout le monde a en tête avec, comme le disait le proverbe, tu sais, être un bon vendeur, c'est être capable de vendre des parapluies dans le désert. Ben, non, au contraire. Pour moi, un bon vendeur, c'est celui qui va comprendre parfaitement le besoin de son interlocuteur. Et c'est ça qui va peut-être faire la différence sur le marché, encore une fois, pénurique au niveau de l'acquisition de talents aujourd'hui.
100%. Je pense que un bon vendeur, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions et qui va surtout écouter les réponses. Donc, un bon recruteur va poser des bonnes questions, il va écouter son candidat pour pouvoir lui répondre à son besoin.
Oh ben, en fait, c'est même que non seulement il va le faire parler, mais il le fait parler pour savoir comment mieux positionner son offre. Tu sais, si tu, comme on disait, tu parles à un candidat puis que tu commences à déblatérer ton pitch sans avoir vraiment compris ce que le candidat cherche, tu vas peut-être te mettre les pieds dans le plat dans quelque chose que fallait pas mettre à ce moment-là en valeur. Ça veut pas dire qu'il faut le cacher, mais il y a une manière de l'amener. Ou à l'inverse, t'appuies pas sur les bons boutons. Donc, effectivement, oui. Après, bon, effectivement, Nico aussi, où le côté vendeur peut faire un peu peur parce qu'en ce moment, on a une... C'est paradoxal parce qu'en recrutement, le vendeur, en théorie, on n'arrête pas de parler d'écoute, on n'arrête pas de parler de relationnel, mais la problématique pour le recrutement en ce moment, c'est de l'avoir, cette écoute, donc d'entrer en discussion. Mais comment tu fais avant, tu sais, est-ce que avant d'avoir cette personne-là en face de toi avec qui jaser, il n'y a pas un côté plus technique, analytique? Tu sais, le fameux sourceur, là, la nouvelle job qui est parue ces dernières années, qui est beaucoup plus analytique, est-ce que ça ne vient pas manquer à ce type de compétences-là? Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ouais, je suis l'avocat du diable, hein, tu sais.
Mais j'aime ça en plus parce qu'effectivement, dans la filière vente, là, tu as tout le côté marketing aussi et puis l'approche marketing qu'il y a avant. Et je pense, comme tu le disais, ce qui est difficile aujourd'hui sur le marché, c'est de réussir à parler à l'interlocuteur parce que les gens, ils n'arrêtent pas d'être sollicités constamment. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vente de produits. Il y a tellement de marketing de partout que c'est excessivement difficile de pouvoir avoir ne serait-ce que la seconde de cerveau disponible de la personne pour pouvoir essayer de la convaincre. Ben là, c'est pareil, c'est tout le travail en amont. Et avant même de donner son message pour réussir à lui parler à la personne, il y a toute la partie, comme tu le disais, analyse de données, où on est capable, parce qu'il y en a qui vont, puis là je vais reprendre ce que Patrick disait, mais le côté, enfin pas là, mais précédemment, sur le côté faire une recherche booléenne, il y a plein de gens qui pensent que c'est simple, mais c'est excessivement complexe si on veut la faire de manière pertinente et efficace. D'ailleurs, je sais pas, Patrick, si tu veux peut-être relancer sur la partie de la data analyse.
Oui, tout à fait. Puis je la pousserai plus loin, même au niveau data analyse, mais le côté stratégie. Tu sais, un bon vendeur, faut pas laisser juste le talent parler au détriment du travail et de l'effort et du plan de match qui doit être exécuté. Donc, une bonne stratégie en amont, et c'est souvent ce qui va faire défaut, autant du côté vendeur que du côté recrutement, c'est la stratégie est pas optimale et surtout la stratégie ne sera pas opérée avec une constance, donc une rigueur à opérer la stratégie. Un vendeur moyen, mais qui a une stratégie parfaite et qui l'opère de façon constante, va arriver à des bons résultats. Quelqu'un qui est super bon vendeur, mais qui est complètement chaotique et qui fait un peu n'importe quoi, ne réussira pas à atteindre les ventes qu'il veut atteindre, comme un recruteur qui fait un peu n'importe quoi et qui se lance sur toutes les choses qu'il peut utiliser, là, que ce soit les bases de données et qui va un peu là, à la va comme je te pousse. Ça, c'est pas une bonne façon de faire, autant pour les deux parties.
Ouais, je fais souvent le parallèle avec le sport pour ça. Tu sais, t'as les joueurs dans n'importe quel sport qui ont un talent pur mais qui ne travaillent pas, donc ils vont rester moyens. T'as ceux qui travaillent fort mais qui n'ont pas trop de talent, mais ils vont essayer d'être moyens, et puis après t'as les superstars. Ça, c'est ceux qui avaient le talent et qui, en plus, s'imposent une rigueur au quotidien de toujours, toujours travailler. Donc, je pense que le parallèle peut se faire.
Ah, c'est sûr. Puis, dans le côté vente aussi, tu parles d'une relation, là, le one-on-one que tu as avec cette personne-là au moment X. Puis, c'est très similaire à ce qu'on parlait dans les pipelines que tu tiens à jour en vente et en recrutement. C'est-à-dire que tu as une personne à un moment donné qui va te dire « je suis pas intéressé », qu'il va falloir relancer, qu'il va falloir nurturer, nourrir. Est-ce que ce serait pas plus de la gestion de communauté à ce niveau-là? Ça peut être les deux, hein, by the way, mais…
Je suis pas d'accord.
J'aime ça, j'ai réussi à les rendre silencieux les deux. Là, pour ceux qui nous écoutent, c'est très rare. Très, très rare.
Non, c'est juste que ta question n'était pas claire. C'est juste ça. Non.
Oui, c'est ça.
Dans le fond, tu parles de gestion de communauté.
Oui.
C'est sûr et certain que, encore là, je parlais tantôt de l'importance de son réseau, de l'entretenir, de le maintenir et de le solliciter, de le maintenir au courant, d'aller chercher des informations aussi pertinentes qui pourraient te faire avancer. Tu sais, souvent, je dis aux gens, quand tu tombes dans un recrutement et que finalement, tu n'as plus d'issue, il me semble que tu as contacté tous les candidats qu'ils pourraient faire, ben appelle ton réseau, appelle des gens qui sont complètement dans le champ gauche de ce que tu recherches, mais peut-être que eux vont t'amener une information, une piste qui va t'amener dans la bonne direction. Donc encore là, le réseau, tu parles de gestion de communauté. Si tu entretiens ta communauté, tu vas arriver à des résultats, ça c'est sûr et sain. Puis tu sais, je ferais dévier un petit peu la conversation parce que ça m'a amené aussi tantôt à penser, parce qu'on parle de vendeurs, recruteurs, c'est qu'aujourd'hui, on vit une pénurie de talent. Et on la vit également en recrutement. Donc, trouver des recruteurs, aujourd'hui, c'est difficile. Ce qui nous amène à essayer de trouver des profils qui sont dans d'autres secteurs, d'autres domaines, mais qui possèdent des soft skills. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence parmi tous les postes qu'on peut avoir, l'entreprise qui va être en mesure de cibler, de reconnaître les soft skills qu'ils ont besoin pour pouvoir recruter, que ce soit en informatique, en comptabilité, en finance, donc de trouver des profils peut-être atypiques, mais qui vont pouvoir avoir les skills pour être pour migrer là, vers le poste. Excuse-moi, Nicolas.
Non, mais en fait, je trouve ça super intéressant. Puis je vois encore un gros parallèle entre vente et recrutement. Tu sais, si on prend la filière vente quand tu fais une business school ou une école de commerce, en règle générale, tu sais, la vente, c'est un peu le parent pauvre, celui que personne ne veut aller faire. Le commercial, on n'aime pas, on a envie de faire du marketing, on a envie de faire de la stratégie, mais aller faire du toc-toc auprès des clients, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, sale ou disons pour les moins bons de la promo. Dans le recrutement, on a la même chose qui existe. C'est-à-dire que quand tu fais des études RH aujourd'hui, l'aspect acquisition de talent déjà est, à mon sens, pas suffisamment abordé par rapport aux enjeux qui sont en train d'arriver sur tous les marchés. Et puis c'est global, c'est pas qu'au Canada ou au Québec ou autour de Montréal, c'est partout qu'on vit cette pénurie de main d'œuvre. Et là, encore une fois, l'acquisition de talent, c'est mis de côté. Quand on regarde ceux qui font des stages, les trois quarts ne veulent pas faire de stage en acquisition de talent. Ça va être sur du développement organisationnel, sur d'autres problématiques RH. Mais encore une fois, il y a un vrai parallèle. C'est-à-dire que la vente, c'est presque quelque chose comme si discuter avec les gens et aller sur le terrain, c'était quelque chose qui était, un peu sale. Il faut se salir les mains et puis… Moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'aime, me salir les mains, donc je suis bien content que ce soit cette situation.
Tu as un bon parallèle, Nico, avec les recruteurs, vendeurs et tout ça. Moi, c'est en informatique. J'ai fait des emplois en support technique. Donc, le recrutement pourrait être considéré des fois comme le support technique du côté RH. Mais moi, en support technique, j'avais accès à toute l'information de l'entreprise, j'avais accès à tous les gens sur le plancher. J'étais au courant de tout ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, c'était au même titre pour les recruteurs. Tu as accès aux gens qui vont rentrer dans l'entreprise, donc aux nouveaux talents, aux nouveaux employés. Tu vas continuer, parce qu'encore là, l'importance du réseau, tu vas continuer à garder une relation avec ces gens-là, même s'ils sont en poste dans l'entreprise. Tout ça fait en sorte que tu as une vue globale de ce qui se passe dans l'entreprise avec les talents qui rentrent, les talents qui grandissent, les talents qui vont croître, les talents qui vont sortir, qui vont aller ailleurs. Donc, tu as un accès incroyable à de l'information et à un réseau. Donc, pour moi, le recrutement n'est pas en bas de l'échelle là, au niveau des RH, mais c'est un poste hautement stratégique.
C'est paradoxal aussi parce que, tu sais, on parle des ventes et du recrutement. Donc, les ventes, comme la similarité est vraiment énorme. Par contre, est-ce que les recruteurs sont aussi bien outillés que les vendeurs pour aller chercher leur lead, tu sais, leur fameux pipeline de clientèle?
Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je l'ai vécu. Alors, ça, c'était dans mon ancienne vie en France. J'avais des personnes, justement, qui étaient en vente dans mes équipes. Et parfois, les vendeurs, finalement, comme les recruteurs aujourd'hui, on les prenait venant d'horizons divers parce que ceux qui étaient dans des écoles de commerce, justement, ne voulaient pas faire de commerce. Donc, il fallait aller trouver des gens. Donc, souvent, ils avaient des people skills, comme on dit en bon français, désolé. Donc, pour ce qu'on disait, avoir du bagou en France, qui, effectivement, être capable d'interagir, d'avoir de l'entre-gens, c'est super important quand on fait un métier de relation. Mais ce n'est pas tout. Et comme tu le disais, Pat, pour être bon dans ce métier, c'est pas le tout d'avoir juste le talent en tant que communicant. Faut aussi être organisé, avoir des outils, avoir des techniques, parce que c'est pareil, il y a des techniques pour prendre connaissance de c'est quoi les motivations de la personne à qui on parle, essayer de les identifier. Je vais pas rentrer dans quelque chose d'académique là-dessus, mais il y a plein d'outils et puis des méthodes de travail à faire. Donc là, je suis en train de m'égarer, je pars en pleine digression, mais
correct.
Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est normal. Pour les auditeurs, je suis désolé. Toujours est-il que il faudrait être capable d'outiller les recruteurs avec des techniques qui sont peut-être des techniques qu'on enseigne en général dans les écoles de vente pour pouvoir les accompagner et les aider surtout à franchir le pas. Au début, c'est difficile d'aller parler à quelqu'un. On a peur de déranger. C'est un des outils. Puis quand on se sent justement avec les bons outils, les bonnes méthodes, c'est plus facile d'y aller tout simplement.
T'es un CEO d'entreprise, mettons, puis on te demande de la dépense pour tes ventes. Généralement, c'est beaucoup plus facile à aller te chercher. C'est pas juste un centre de coûts, c'est un centre de revenus. Un recruteur qui demande 4 outils d'automatisation et d'intelligence artificielle pour aller automatiser une partie, sinon l'entièreté de ses campagnes, ça doit être beaucoup plus... le dossier doit être bien monté. Tu sais, c'est ça aussi que je voulais illustrer, c'est que c'est pourtant le même style de compétences, c'est pourtant du développement de leads, de pipeline, de communauté, de réseau. Il y a un coût associé à la perte finalement ou la non-efficacité de ton recrutement. C'est juste qu'il n'est pas aussi visible qu'au niveau des ventes. Tu sais, les ventes, tu as un revenu de vente, tu as zéro, c'est facile à identifier. En recrutement, tu as des chaises vides, mais tu ne sais pas le calculer. C'est ça qui est un peu paradoxal, je trouve.
Tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le domaine des ressources humaines le savent. Rares sont les entreprises qui sont capables de mettre un budget ou un coût sur combien ça coûte de faire un recrutement. Donc, à partir du moment où tu n'as pas conscience de cette dépense, c'est encore plus difficile de la justifier.
En plus d'être paradoxal d'ailleurs, tu sais, pourquoi dans ces cas-là, demain matin, là, en fait, ce serait mon rêve de dire demain matin, on est capable, comme on s'en parlait, de calculer ton coût de recrutement, on est capable de gérer nos pipelines de talents dans un CRM? peut-être. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un peu des rêves par rapport à ça. On est capable de calculer notre taux de closing, pas de closing, mais le temps qu'on met à remplir une chaise, comme un vendeur est capable de calculer un temps de closing de deal. J'ai beaucoup ça dans la tête. Le CRM m'intéresse beaucoup. Là, on en a parlé, Pat, pour la gestion des talents. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, sur le marché ou qui vous intéresse aussi?
Oui, tout à fait. Le CRM versus l'ATS. Encore là aussi, c'est des outils. Donc, l'outil va dépendre beaucoup de la façon que tu vas l'utiliser, de la façon que tu vas l'implanter. Donc, c'est super important de mettre aussi en phase les processus, les bonnes façons de faire, les bonnes pratiques qui vont être supportées par le bon outil. Donc ça, c'est une combinaison des deux. Le CRM, effectivement, si on ramène ça encore, le recruteur-vendeur, le CRM offre beaucoup déjà de features, excusez l'anglicisme. De toute façon, on en a dit plusieurs, les anglicismes aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Mais les CRM offrent une vision, une façon de faire différente par rapport à l'ATS pour vraiment entretenir ton réseau, ton pipeline dans ce cas-ci de candidats, ton vivier de candidats, si on veut être parfait. Donc, le CRM est un atout, c'est vrai, super important.
Justement, là, tiens, on parle d'outils, d'investissement aussi pour les compagnies. Alors, t'en parlais un petit peu tantôt, Charlène, et je sais pas si pour vous, vous le voyez comme moi, je le vois sur le marché, mais j'ai l'impression que les ressources humaines, c'est en train un peu d'évoluer, mais c'est le parent pauvre dans toutes les compagnies quasiment. C'est entre guillemets une fonction support. On le voit uniquement comme une dépense, alors que si on prend la fin des années 90, tu sais, où c'était vraiment toutes les compagnies misées à fond sur le marketing partout. Ensuite, c'est les financiers, c'est qui ont pris le pouvoir, on va dire, dans toutes les grosses compagnies. Et c'est comme si aujourd'hui, RH est en train de pointer le bout de son nez en disant « Hey, monsieur, dame, il y a quand même une chose que toutes les entreprises du monde ont en commun, c'est que ils vendent la même chose. Ils vendent le savoir-faire de leurs employés. Et sans employés, pas de savoir-faire. Et donc, on va nulle part. » Et je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on est en train de voir, mais de manière globale, avec la digitalisation en fait de tout, et donc c'est encore plus vrai dans les technologies de l'information, ce qui amène un stress sur le marché parce que faut les former, toutes ces personnes-là, les universités n'arrivent pas à sortir et faire face à la demande. Donc je pense que j'ai pas de boule de cristal, mais les 10 prochaines années, je pense que dans la supply chain au niveau des compagnies, les ressources humaines et encore plus l'acquisition de talent, j'aime pas dire juste acquisition, mais l'acquisition et la rétention du talent, ça va être justement le point le stratégique pour les compagnies sur lesquelles ils vont devoir investir et donc s'équiper.
Ouais, puis tu amènes un bon point, Nico. On avait fait lors d'un meet-up avant COVID un peu un exercice de voir les trends en ressources humaines, acquisition de talent et tout ça de 2012, 2013, 2014. Et on l'a comparé avec les trends de 2019, 2020 et c'était sensiblement les mêmes. Donc, il y a une espèce de stagnation au niveau des outils, des processus, des façons de faire, des grands thèmes majeurs du RH et de l'acquisition de talent. On n'évolue pas on coche pas des cases en disant « OK, ça c'est fait, ça on l'a maîtrisé, c'est parfait, on l'a implanté, passons à un autre état pour justement évoluer ». J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de surplace parce que peut-être une des raisons que tu mentionnais tantôt, Charlène, que l'investissement des entreprises se fait pas assez à ce niveau-là parce qu'on n'est pas capable de le justifier, de bien monter notre business case pour aller chercher cette demande-là. Mais tu sais, tu mentionnais tantôt qu'un CEO va accorder de l'argent à son équipe des ventes parce que c'est de facto, c'est ça va de soi versus le recrutement. Je peux te dire, je suis un CEO aujourd'hui et quand les vendeurs me demandent d'utiliser des outils, je m'attends à un retour sur investissement encore plus grand. Donc, je pense que les deux parties doivent présenter la valeur ajoutée là, d'utiliser le bon outil ou la bonne façon de faire.
C'est un peu comme dire, tu sais, on dirait que tu vas dans une entreprise puis tu présentes ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire recrutement égale vente, en gros. Là, j'exagère, on fait un gros trait entre les deux. Là, les gens vont dire, ah oui, c'est vrai. OK, parfait. Donc, dans ces cas-là, dans le recrutement, on doit être en mesure de faire du recrutement réactif puis du recrutement proactif. Donc, j'aurais besoin de faire du recrutement proactif, donc sur l'année, sur des communautés. En vente, c'est ce qu'on fait. On a du réactif sur les leads entrants, puis on a du proactif pour aller chercher des leads et puis les nourrir au fur et à mesure. Mais là, dès que tu passes la ligne, je te garantis que là, c'est plus « Ah ouais, c'est vrai, il faut faire ça. » C'est « Ouais, il faudrait le faire, mais on n'a pas le temps. On a beaucoup de postes ouverts. On n'a pas le temps d'être proactif. » Et toi, tu disais, il y a un moment où on stagne et j'ai l'impression qu'on stagne ici. en ce moment dans les entreprises. C'est là, la ligne, elle est dure à franchir.
Elle est dure, puis j'ai l'impression qu'on regarde toujours les mêmes dashboards, les mêmes données. Donc, on n'est pas capable de sortir un peu des sentiers battus. Je vais te donner un exemple. On essaie de calculer le coût par embauche. OK, c'est pas super évident, mais on y arrive avec quelques petites manœuvres. De l'autre côté aussi, on va dire qu'un mauvais recrutement coûte X dollars à l'entreprise. Donc, ça aussi, on est capable de l'évaluer. Ça fait en sorte que les gens ont tellement peur des fois de prendre une décision et d'embaucher et de recruter par peur de se tromper parce qu'on leur a tellement montré le chiffre de dire un mauvais recrutement coûte cher. Mais combien ça coûte ne pas prendre la décision et de continuer à chercher, de continuer à faire du surplace, à brûler ses équipes internes parce qu'on n'a pas été chercher la personne qu'on avait besoin dans l'équipe qui est peut-être à 80% de ce qu'on avait besoin versus on cherche toujours le 100%, la personne idéale. Donc, il y a des coûts comme ça qu'on ne prend pas en compte dans l'équation et qui nous sauteraient aux yeux parce que un mauvais recrutement, c'est quoi un mauvais recrutement? Tu sais, est-ce que la personne a été mauvaise à tous les niveaux, à toutes les journées, à toutes les heures qu'elle s'est présentée chez vous? Ça serait vraiment un terrible recrutement. Mais je pense que, tu sais, on va souvent dans l'extrême pour amener la valeur des coûts, mais il y a beaucoup de choses qu'on prend pas en compte. Je sais pas si tu veux compléter, Nico.
Si je rebondis sur le parallèle, en plus c'est intéressant parce que dans la vente, la même chose, si ton vendeur il ramène un client et puis tu sais, tu signes jour 1, ça va rapporter un tout petit peu de cash jour 1, et puis si le client il fait pas du repeat of business, désolé encore une fois pour l'anglicisme, mais et puis on le perd, bah ça sera pas un drame, personne va aller chialer dans la compagnie, c'est juste pas de bol, on a fait une mauvaise approche, alors que dans RH c'est comme si on n'avait pas le droit de se tromper, oh, on a fait un mauvais recrutement, c'est un coût pour la compagnie. Mais non, pourquoi tu le vois comme un coût? Cette personne là elle est arrivée, déjà ça te permet peut-être de comprendre pour la suite que ce type de profil n'est pas un fit dans ton équipe, donc en fait le coût, il ne faudrait pas le voir uniquement d'un point de vue monétaire, mais peut-être d'être capable de faire une analyse un peu plus globale parce que, bah, comme dit, je le dis souvent, mais tu sais, faire une erreur, c'est pas grave, c'est même encouragé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la répéter. Dans les ressources humaines, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est faire une erreur de recrutement une fois, ça te permet derrière de savoir ce que tu veux et donc de plus la refaire. Et ça devrait être quelque chose d'être anticipé. Puis là, je vais faire encore un autre point sur la législation du travail. On est au Québec, je veux dire, la législation du travail, comparativement, comme on l'entend à mon accent, je viens de France, la législation au niveau de l'emploi avec le fameux CDI, le contrat à durée indéterminée, où quand on embauche quelqu'un, on signe presque son contrat avec son sang, parce qu'au bout de 3 mois, même si la personne ne fait plus rien, on peut plus s'en séparer, et puis on met en péril sa propre compagnie, alors qu'au Québec, on a cette flexibilité, puis le marché s'est adapté à ça. Les gens voient moins ça comme un drame de changer de poste. Donc, ça devrait permettre d'avoir peut-être une prise de risque un peu plus importante, parce que plus le risque est élevé, finalement, plus le gain potentiel l'est aussi. Donc, encourageons ça aussi. Et puis je voudrais rebondir sur ce que tu disais tantôt. Tu sais, les entreprises doivent changer de mentalité. À la tête des compagnies, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui ont vécu leurs expériences, parce que quand on arrive généralement à la tête d'une compagnie, c'est parce qu'on a eu un gros bagage et donc des années d'expérience derrière soi, ce qui fait que on a vécu les ressources humaines telles qu'elles étaient avant et on s'est peut-être pas penché suffisamment sur ce que c'était aujourd'hui et sur les outils. Il y a pas si longtemps que ça, je ne citerai pas, mais je collaborais avec une compagnie qui était cliente et le CEO, pour lui, en fait, il pensait que faire du recrutement, c'est on affichait sur Monster, et puis je sais plus s'il a dit Monster ou autre, et je voudrais pas faire de pub pour Monster, mais sur un job board. Et on attendait, puis après, on triait des CV. Pour lui, c'était ça, faire du recrutement dans sa tête. C'était ça que faisaient ses équipes de RH. Donc, c'est sûr que si on va toquer à sa porte et puis on lui demande un budget pour avoir un ATS qui va coûter je sais pas combien par an, lui ne comprend pas parce que la personne n'a pas fait juste l'effort de voir c'était quoi le marché aujourd'hui. Donc, il y a peut-être aussi un problème de perception qui est à faire changer.
Pour finaliser un petit peu notre discussion, est-ce que ça voudrait dire, pour reprendre le point initial de vendeur-recruteur, est-ce que ça voudrait dire que demain matin, puis je vous pose la question à chacun, demain matin, il y a quelqu'un qui semble être un bon vendeur, c'est-à-dire qui écoute, qui est bon à vendre, etc., mais qui a 0 année d'expérience, se présente à la porte de votre entreprise, mettons que vous n'êtes pas chez Humanify, et à côté de ça, il y a une personne qui a 6 mois d'expérience en recrutement que tu sens qu'il est moins bon. Il est moins bon à convaincre, mais moins bon à tisser une relation, mais il est meilleur techniquement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un biais d'aller plus vers une personne relationnelle que tu vas former techniquement, ou est-ce que tu as le biais d'aller plus vers une personne technique que tu vas former au niveau relationnel? Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Toutes les options sont possibles, mais c'est pour finir la discussion. J'aimerais savoir pas de ce que tu en penses, puis après ça, toi, Nico, ce que tu en penses.
Pour répondre facilement à ta question, comme je disais tantôt, ça prend une bonne stratégie. Si ma stratégie en amont pour venir combler certaines lacunes ou des besoins dans mon équipe est d'avoir quelqu'un plus relationnel, c'est clair que je vais aller avec ton option 2. Si dans mon équipe, on a besoin d'un côté technique ou d'évaluation en entrevue ou les skills que tu as nommés au niveau de la personne 1, je vais aller avec la personne 1. Mais je vais regarder mes besoins. Je vais rechercher en toute objectivité chez les deux personnes qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir. Et d'un côté comme de l'autre, je vais avoir de la formation à donner. Donc, il y en a un que je vais devoir montrer le relationnel et l'autre, je vais devoir montrer les skills de recrutement comme les booléennes et ainsi de suite. Mais des skills relationnels, très difficiles à montrer. Donc, si c'est ça mon besoin, c'est clair que je vais aller avec l'option 2.
OK.
Ça va être difficile de rebondir là-dessus parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick. C'est à peu près la même approche. Dans l'idéal, il faut prendre les deux. Tu les fais travailler ensemble pendant 3 mois et puis tu fais en sorte qu'ils déteignent l'un sur l'autre. mais sinon, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est difficile comme question, mais parce que, tu sais, t'en as dit assez peu parce qu'il y a un humain qui est face à nous et faire une décision là-dessus. Mais ça va faire un peu gourou ce que je vais dire, mais tu sais, quand t'as les personnes en face de toi, ce que t'as envie de voir aussi, c'est est-ce qu'il y a la flamme dans les yeux? Est-ce que la personne, tu sens qu'elle a envie? Et puis pour moi, surtout sur ces métiers-là, le fait de, surtout quand on parle de junior, pour moi, la différence, parce que 6 mois d'expérience, finalement, hein, c'est comme zéro. C'est pas grand-chose. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que la personne, elle a la flamme dans les yeux? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre?
Je te retournerai la question, Charlène. Moi, voilà 4 ans et demi, 5 ans, j'ai eu un choix à faire. Il y a une personne qui s'est présentée à l'improviste chez Humanify avec pas d'expérience en recrutement, très forte expérience relationnelle, et j'avais déjà une personne d'avancée dans le processus qui avait toutes les qualités d'un bon recruteur, plus théorique et tout ça, là, ce qu'on entend. Et la personne que j'ai sélectionnée, ben aujourd'hui, est en train de m'interviewer au niveau d'un podcast. Fait que je pense que j'ai fait le bon choix.
Bon, ben là, je peux pas faire une meilleure conclusion à ça, je crois que... Ben oui, mais effectivement, merci d'ailleurs. Tu vois, c'est... OK, pour rebondir là-dessus, ça, je l'ai beaucoup retrouvé au Québec, c'est-à-dire la capacité à avoir le potentiel vs l'acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans une récession, comme on vit, au niveau du talent, c'est ce qui va différencier une entreprise en santé au niveau de son acquisition de talent d'une entreprise qui souffre. Ben, merci à vous deux, hein. Vous êtes prêtés à l'exercice pour le coup... C'est le fun de se jaser. Tu sais, on travaille tout le temps. Hein? C'est ça? Ça va super vite. Mais de toute façon, je vais laisser vos coordonnées dans le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent aller vous jaser un peu puis en découvrir un peu plus sur vous. Là.
Merveilleux. Merci de l'invitation.
Merci. C'était un vrai plaisir.